Vous écoutez RTL.
La curiosité, c'est parti avec Sidonie et avec Thomas.
Oui, salut Stéphane, et je relève le défi lancé par Jérôme Chapuis lundi matin dans les coulisses de la matinale. Mmh. Je porte le maillot du PSG, voilà, aujourd'hui, ah ouais. En préparation.
Ça lui va super bien.
Ça me va très très bien, je suis fit comme c'est pas permis. Bon, alors sinon, on vous raconte une autre supercherie, l'une des plus grandes supercheries de l'histoire du sport et de l'aventure. 1968, la première course autour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Un navigateur, un amateur, un Anglais qui fait croire qu'il bat des records de vitesse sur son trimaran alors qu'il fait des ronds dans l'eau au large du Brésil. L'histoire d'un homme dépassé par ses rêves. Vous verrez, c'est vraiment passionnant. Et ce sera raconté par l'acteur et producteur Jacques Perrin.
Et tout de suite sur RTL, on a le bourdon, mais c'est pour la bonne cause.
La curiosité est un vilain défaut.
La pollinisation est essentielle pour un grand nombre de cultures. On assiste actuellement à un déclin dramatique des pollinisateurs, lié à la démographie, au changement climatique, ainsi qu'à l'utilisation de produits chimiques.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme comme nos marguerites. Nous
sur RTL.
C'est pas nous qui choisissons les mises en onde, hein. C'est notre réalisateur Sébastien Duduy qui se fait plaisir et qui a mis son hit, son tube
parce qu'en
de
plus,
toute
il,
sa vie.
Il chante et il danse en même
bah
temps,
oui,
il faut
ça
voir
vous.
Ça.
Vous le voyez pas sur RTL.fr, mais vous pouvez nous voir nous trémousser. Bienvenue les curieux, ça y est, c'est parti pour une heure d'histoire, de découverte et toujours de bonne humeur. Vous allez bien Thomas?
Ça va très bien Sidonie, bonjour à toutes, bonjour à tous. On parle, vous le savez, de tout dans notre émission Aventure, Science, Histoire, Musique. Et nature, donc, dans tous ses états.
Et aujourd'hui, on va vous dévoiler les super-pouvoirs des bourdons à l'occasion d'un dossier de Ça m'intéresse qui nous a tapé dans l'œil. C'est en partenariat avec RTL et nous sommes avec la journaliste Marie Lécroire. Bonjour.
Bonjour Sidonie.
Bonjour,
soyez la
bienvenue.
Merci.
On commence, tiens, par faire tomber quelques clichés. On était quelques-uns à penser, à la curiosité, je ne citerai pas de nom, que le bourdon, c'était le mari de l'abeille.
Comme c'est mignon.
On a c'est mignon parfois.
Ben non, on appelle le mari de l'abeille le faux bourdon. Alors forcément, ça aide pas beaucoup.
Ah oui,
le bourdon, c'est une abeille, une des nombreuses espèces d'abeilles qu'on a en Europe.
Le bourdon, c'est une abeille.
Oui, le bourdon fait partie de la famille des abeilles, pour tout compliquer. Mais le bourdon, c'est bien une espèce à part.
Ça veut dire qu'il a sa propre ruche ou son propre espace à côté de l'espace des abeilles. Ils ne partagent pas, ils ne sont pas colocs.
Et alors l'abeille, elle est plutôt rayée, elle est noire et jaune. Il habille comment le bourdon pour faire la différence?
Il est noir et jaune aussi, mais il est beaucoup plus poilu et beaucoup plus gros surtout. Son corps est deux fois plus long que celui de l'abeille et il pèse quatre fois plus. Bon, évidemment, il pèse pas très lourd, mais quand
il
même,
est baraque,
un gros nounours.
Alors, ce qui est passionnant dans votre dossier, ça m'intéresse, c'est qu'on découvre le rôle du bourdon dans l'agriculture d'aujourd'hui, notamment dans la production de fruits et légumes. Pourquoi il intéresse tant le bourdon, ses producteurs?
Parce que c'est le sol dont les muscles des ailes sont assez fortes pour faire vibrer les fleurs qui ont besoin d'être vibrées pour être pollinisées.
C'est une expression vibrer, c'est-à-dire c'est séduire ou c'est...
Non, on les fait vraiment vibrer comme une salière, ce qui permet aux grains de pollen de tomber sur les parties femelles de la fleur.
Et l'ovule, quoi, c'est ça,
des fruits.
Quels fruits, du coup, on parle alors?
En particulier la tomate. En fait, l'histoire, c'est que pendant très très longtemps, on a fait des tomates en plein air, donc le vent se chargeait de faire vibrer les tomates et puis on s'est mis à les mettre en serre pour en produire plus et plus longtemps dans l'année. Et ces tomates n'étaient plus vibrées en serre à l'abri du vent, donc les ouvriers agricoles devaient les faire vibrer eux-mêmes.
Alors on l'a bien compris, le grand boulot du bourdon, c'est la pollinisation. Et pour bien comprendre ce que c'est quand même la pollinisation, on va accueillir un chercheur à l'INRA, Bernard Vessière. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue. Alors, vous nous expliquez comment le bourdon pollinise, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. C'est un entremetteur, c'est un fécondateur?
Alors, le bourdon, et il n'est pas tout seul, il y a quand même un grand nombre d'espèces sauvages qui vibrent aussi. Simplement, lui, il a effectivement ses muscles ailaires qui sont bien développés, et il est capable de vibrer les fleurs à environ 300 Hz, donc 300 fois par seconde. Et puis, de faire tomber le pollen, c'est vraiment le système de la salière. Et les fleurs qui sont à pollinisation vibratile, c'est comme ça qu'on les appelle, elles libèrent leur pollen par des pores. C'est pas des fentes comme on a l'habitude, c'est vraiment des pores. Et ces pores sont assez petits, il faut vraiment que le système soit vibré pour que le pollen soit extrait à l'extérieur.
Là, on a parlé de la tomate, quelles sont les autres plantes concernées?
Alors, les autres plantes concernées, il y a le cyclamen, par exemple, et puis il y a un certain nombre de bruyères. Enfin, il y en a pas mal au total. Il y en a plus de 300 espèces au niveau mondial.
L'aubergine ?
Pardon ?
L'aubergine aussi,
oui, ouais. Mais elle a moins besoin de pollinisation que la tomate. Pour la tomate, c'est quand même un élément important pour obtenir une production de bonne qualité.
Bernard Vessière, comment ça marche ? Le pollen, ça représente quoi au regard de la fleur ? Il y a une histoire de spermatozoïdes, ovules, on a envie de comprendre un peu.
Le pollen, c'est tout simplement l'enveloppe des spermatozoïdes de la plante, si vous voulez. Donc c'est une enveloppe qui contient des cellules, une ou deux cellules d'ailleurs, et puis qui vont acheminer les spermatozoïdes, les noyaux spermatiques, en fait, jusqu'au niveau du stigmate. Et au niveau du stigmate, ce pollen va germer, s'il est viable et compatible, et les tubes polliniques vont acheminer les spermatozoïdes jusqu'au niveau des ovules. Tout ça, ça fait partie de la pollinisation, et c'est à partir du moment où elles arrivent au niveau des ovules qu'on va voir la fécondation sensu stricto.
Et ça fait longtemps, d'un mot, que les bourdons ont remplacé les ouvriers agricoles pour secouer comme ça les plants de tomates ?
Alors c'est dans la fin des années 90 qu'un vétérinaire belge, M. De Jong pour ne pas le nommer, a trouvé le système pour lever la diapause des bourdons. Il faut savoir que les bourdons, on a 50 espèces de bourdons en France, donc ce n'est pas juste une espèce. Et puis ces bourdons, en général, l'hiver, ils diaposent, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, ils sont sous la mousse. Il y a juste les reines, qui passent l'hiver d'ailleurs. Et là, en arrivant à lever la diapause, et ben en fait, on peut recommencer un cycle immédiatement, n'importe quand dans l'année. Et donc ce vétérinaire a trouvé ce système. Et depuis, il y a des entreprises qui élève les colonies de bourdons. Il faut savoir que dans le cadre d'un programme européen, on a évalué qu'il y avait environ 2 millions de colonies de bourdons élevées dans le monde par an pour la pollinisation des cultures, principalement les cultures sous serre.
Bernard Vessière, on va revenir sur ce business du bourdon. Vous gardez avec nous, vous êtes dispo ?
Il n'y a pas de problème.
Bon, bah formidable.
Tout de suite, alors.
Alors le bourdon, bon vibreur. Et vous allez découvrir qu'il a d'autres qualités. Il est casanier, placide et peu causant.
C'est
bon,
tout
sur
moi,
le papier, ça
ne
fait pas très envie, mais vous verrez pourquoi c'est important. A tout de suite sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut.
Comme tous les pollinisateurs, le bourdon est une espèce en régression.
RTL.
Les bourdons ne produisent pas forcément du miel. Ils produisent une substance sucrée qui sert à nourrir les larves, comme toutes les abeilles sauvages d'ailleurs. Oui, le bourdon pique. Du moins, il peut piquer, parce que le bourdon est un animal qui est excessivement peu agressif, contrairement à l'abeille domestique.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il y a trois types d'individus dans un nid. Il y a une reine, il y a des mâles au moment où il faut féconder la reine, et il y a des ouvriers.
On est bien entre curieux sur RTL.
Si vous connaissez la curiosité, vous savez que dans cette émission, jusqu'à 15h tous les jours sur RTL, on aime la nature, on aime parler des animaux, découvrir leurs super pouvoirs, leurs caractéristiques. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'histoire du bourdon, ce pollinisateur hors pair. On est toujours avec la journaliste Marie Lécroire, qui est journaliste de Ça m'intéresse, et Bernard Vessière, chercheur à l'INRA. Marie Lécroire, le bourdon, donc on l'a vu, c'est un bon vibreur avec la puissance de ses ailes. Il peut butiner la tête en bas, déclencher la chute du pollen dans les fleurs, notamment de tomates. Quelles sont ses autres qualités ?
Il n'est pas frileux, le bourdon, d'ailleurs. Ah. On peut le deviner en le regardant. Il est vraiment très poilu.
Ouais.
Moi, je le compare souvent à un petit nounours.
Oui, il a quand même un manteau de fourrure, un peu.
Oui, et c'est vraiment ça. Ça l'isole du froid. Donc, il est pas... Enfin, s'il neige au mois de mars-avril, on peut voir des bourdons voler. Jamais on verra des abeilles.
Est-ce que les abeilles, elles se reposent quand elles ont froid, c'est ça ?
Ouais, elles hibernent, elles sont au ralenti, ouais.
Et du coup, ça sert à quelle culture, cette qualité du bourdon, le fait qu'il n'ait pas froid ?
Mais alors, outre, oui, les tomates qui sont en serre, donc qu'il faut faire vibrer, ça sert à toutes les cultures précoces, les abricots précoces. Le bourdon est très utilisé dans les pays du nord de l'Europe, Hollande, Allemagne, pour les fruits à baies, fraises, framboises, myrtilles.
Donc c'est quand ça ? La floraison précoce de ces fruits-là, c'est fin février, quelque chose comme ça ? Et le bourdon, il est capable de
les activer,
voler
quoi.
Et du butiner,
en France, dans le sud de la France, quand on commence la production de fraises, les fleurs sont ouvertes en février-mars, et
d'accord,
ils utilisent des bourdons à cette période-là. Les abeilles sont inopérantes. Et là, pour les fraises, on ne parle pas de fleurs qui ont besoin d'être vibrées.
Bernard Vessière, je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRA. On dit que le bourdon, il est aussi très casanier. En quoi c'est une qualité chez les bourdons ?
Ben, je ne sais pas encore, c'est une qualité très importante. Je suis désolé, parce que par rapport à ce qui vient d'être dit, le fait qu'il butine quand il fait froid, oui, c'est un intérêt, mais sous serre, en fait, on peut très bien utiliser des abeilles domestiques aussi. Par ailleurs, le fait que les bourdons sont non agressifs et les abeilles... Quand vous dites les abeilles, oui. Je suis désolé, c'est pas les abeilles, c'est les abeilles domestiques. C'est juste une seule espèce.
Ah, c'est quoi la différence? Expliquez-nous la différence entre les deux.
On a 1000 espèces d'abeilles en France. Il y en a une qui produit du miel et qui est utilisée très largement pour la pollinisation, c'est l'abeille domestique. Le bourdon, quand vous parlez des bourdons, c'est une seule espèce, c'est Bombus cerestris. Le bourdon, il a les yeux lisses, l'abeille domestique, elle a les yeux poilus.
Le bourdon, il est domestique aussi ou pas?
Le bourdon, il est domestiqué.
Oui.
Les colonies sont produites, peuvent être produites carrément sans apport de pollen particulier. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, les 2 millions de colonies qui sont produites dans de grandes usines qui produisent des milliers de colonies par jour, en fait.
Mais c'est vrai que les bourdons sont plus calmes que les abeilles qui piquent moins?
Aucune abeille n'est agressive. Quand je parle des abeilles, c'est les abeilles au sens large, tout simplement parce qu'elles sont végétariennes. Et elles n'ont pas de raison d'être agressives pour essayer d'avoir des protéines animales comme les guêpes, si vous voulez, ou les frelons. Mais il n'y a pas d'agressivité. Il y a une défense du nid. Effectivement, il y a une défense qui peut être très, très réelle parce que ça contient quand même beaucoup de ressources. Et bon, les bourdons ont un dard qui n'est pas branchu, contrairement à celui d'abeille domestique. Une abeille domestique, elle vous pique, elle perd la vie. Parce qu'elle ne peut pas ressortir son dard de la peau. Le bourdon vous pique, il peut repiquer de façon répétée au niveau de la peau. Et très honnêtement, une piqûre de bourdon, du bourdon terrestre, ça me fait beaucoup plus mal qu'une piqûre d'abeille domestique.
Merci beaucoup, merci Bernard Vessière. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRA. Merci de nous avoir éclairé dans cette émission dans la curiosité sur RTL. Bourdon domestique, on a entendu ce mot. On va vous expliquer, restez avec nous, comment on les produit, comment on les reproduit, ces bourdons. A tout de suite sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le bourdon a un super pollinisateur et c'est un compliment chez les insectes. Et oui, ils font même un peu d'ombre aux abeilles qui sont toujours aussi efficaces pour polliniser nos fruits et nos légumes. Nous sommes avec Marie Lécroix de Ça m'intéresse. Les producteurs de fruits et légumes, à qui ils achètent leurs bourdons? Ça se trouve où, ça, des bourdons? Vous achetez dans un sachet, une boîte, dans le coffre de la voiture?
Comme on le disait tout à l'heure, les premiers à avoir réussi à élever les bourdons de manière efficace et rapide, c'était les Belges. Donc il y a une société belge qui est numéro 2 maintenant, qui s'est fait doubler par une société hollandaise, il me semble. Et il y a un troisième acteur important dans l'élevage des bourdons, c'est les Espagnols. Donc les trois leaders mondiaux de l'élevage de bourdons sont européens.
Et alors on les achète comment? Dans des boîtes? C'est des essaims ou des colonies? Ça ressemble à quoi concrètement?
Ils appellent ça des nids. Généralement, il y a une reine et une cinquantaine d'ouvrières dans le nid standard. Et ça ressemble, je suis navrée, à une boîte à chaussures.
Et qu'est-ce qu'ils en font une fois qu'ils récupèrent cette boîte à chaussures? On l'ouvre donc, et on laisse les bourdons travailler?
On l'ouvre, mais on n'enlève pas le couvercle. On ouvre les deux petits trous qui permettent aux bourdons de la colonie d'entrer et de sortir quand ils font leur travail de pollinisateur.
Ouais.
Et en général, les agriculteurs les reçoivent sur le lieu de production. Ils les répartissent dans leurs serres ou dans leurs vergers ou selon les cultures sur lesquelles ils pensent les utiliser. Et puis, les colonies ont une durée de vie jusqu'à un mois.
Comment ça, un mois seulement?
La colonie arrive quand elle est assez mûre et
ce sont des vieux bourdons.
C'est une colonie qui ne vient pas de voir le jour parce qu'au départ, il y a les premiers œufs, il faut le temps de faire les bébés bourdons et d'arriver à 50 ouvrières.
Donc en fait, c'est des bourdons qui meurent au bout d'un moment, il faut les remplacer, c'est ça?
Ouais.
Ils font leur travail de pollinisateur et ensuite ils sont remplacés. On l'a évoqué tout à l'heure avec Bernard Vessière, le chercheur de l'INRA, mais je pense que c'est important de revenir sur cette question. Est-ce que c'est facile? Comment on fait se reproduire des bourdons, puisqu'on parle de bourdons domestiques là?
Alors, pour avoir interviewé les deux leaders mondiaux, c'est assez techno quand même. Ouais. On sélectionne les lignées, on s'assure qu'elles sont exemptes de maladies, parce qu'il y a un des gros problèmes de maladies chez les pollinisateurs. On parle toujours des maladies des abeilles, mais en réalité, ça touche aussi d'autres espèces. Il ne s'agirait pas que des bourdons de production industrielle, entre guillemets, aillent contaminer les insectes sauvages. En tout cas, on essaie d'éviter. Et puis, on les fait s'accoupler. en laboratoire, mais en conditions contrôlées. Mmh. Et les femelles pondent, élèvent leurs petits et on commercialise les colonies au bout de quelques semaines à quelques mois.
Ce qui est passionnant aussi avec cette utilisation des bourdons, ces pollinisateurs, c'est que grâce à eux, c'est ce que vous racontez dans votre article de Ça m'intéresse, on utilise peu de pesticides, peu ou pas. Pour quelle raison ?
Voilà, au moment où les tomates sous serre étaient pollinisées par secouage par des ouvriers agricoles ou même par arrosage avec des hormones qui déclenchaient la chute du pollen, on pouvait utiliser des pesticides contre les insectes, contre les maladies sans problème. Maintenant que c'est les bourdons qui font le boulot, oui, il n'est pas question de faire ça. Donc c'est plutôt vertueux dans ce sens-là.
Mais alors j'ai lu qu'il y avait un risque à l'utiliser de ces bourdons domestiques, de ces pollinisateurs, c'était le surbutinage. C'est quoi le surbutinage ?
Ah, le surbutinage. Ça fait envie pourtant comme ça ?
Bah oui, moi ça sonne bien, le surbutinage c'est quoi ?
Bah, quand je l'ai interviewé, Bernard Vessière justement m'a raconté qu'il y avait des agriculteurs qui avaient perdu leur récolte à cause des bourdons. Alors ils ont dû vraiment mettre beaucoup de bourdons, mais en tout cas il faut pas... Le bourdon est tellement costaud et énergique, quand il fait vibrer la fleur, il y va. Les fleurs les plus fragiles, s'il y a trop de bourdons dans le secteur, qu'elles se font vibrer plusieurs fois par jour par des bourdons très affamés.
Épuisement total.
Elles peuvent avorter ou faire des fruits difformes.
Une fleur peut avorter ?
Une fleur peut avorter, absolument.
Mais alors, quelle solution, Marie Lécroix, pour que ces bourdons secouent moins les fleurs et les fatiguent moins ?
Ne surbutinent pas.
Oui. Alors, selon les personnes qui vendent les nids de bourdons, tout est dans le dosage et le timing. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les bourdons trop tôt, quand il y a très peu de fleurs dans les champs. Les premières fleurs qui commencent à s'ouvrir, si on leur met plein de bourdons, elles vont pas aller bien. Et il faut aussi ajuster donc, le nombre de bourdons au nombre de fleurs. Une tomate... Un plant de tomate cœur de bœuf a beaucoup moins de fleurs qu'un plant de tomate cerise en général, donc on ne met pas le même nombre de bourdons. Et en fait, ceux qui commercialisent les bourdons sont bien conscients du potentiel de problèmes que ça génère, donc ils suivent leurs clients de très près, ils sont hyper forts dans le conseil.
Alors dans le numéro
maintenant,
de Ça m'intéresse...
On va penser aux bourdons quand on dégustera nos tomates.
Exactement.
Prochaine salade, c'est pour eux. À eux.
Dans le numéro de Ça m'intéresse, en partenariat avec RTL, on découvre que les bourdons peuvent aussi être des docteurs volants. Ah oui, mais pourquoi ? Bah réponse dans un instant sur RTL.
Et puis la plus grande supercherie de l'histoire de la voile à venir dans la curiosité, l'histoire d'un homme dépassé par ses rêves.
RTL.
Les enfants ont peur d'un peu tout, et puis les parents savent pas trop, est-ce qu'ils peuvent toucher, est-ce qu'ils peuvent s'approcher, etc. Donc du coup, on a fait 50 antisèches nature pour parents en détresse.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça peut être un gros bourdon sur le balcon... Toutes ces petites bêtes dont on a un petit peu peur, mais en fait on a tort.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'un de nos sociétaires, François Lasserre, qui nous rassure et qui nous apprend à prendre soin des bourdons. Les bourdons qui sont des super pollinisateurs, c'est ce que l'on découvre avec le magazine Ça m'intéresse et la journaliste Marie Lécroix. Alors ces bourdons, ils n'aiment pas seulement nous aider à produire des fruits et des légumes délicieux, ils soignent aussi, mais de quelle manière ?
Ça, c'est un raffinement des producteurs de ruches de bourdons qui leur ont installé un petit pédiluve à la sortie de la boîte qui leur sert de nid pour qu'ils trempent leurs petites pattes dedans en sortant et en allant polliniser, et qu'ils traitent au passage les plants de fleurs, de tomates...
Mais il y a quoi dans ce pédiluve ? C'est des produits chimiques ?
Alors, c'est pas des produits chimiques, c'est de la lutte biologique. Donc, il y a des micro-bestioles qui luttent contre telle ou telle maladie, champignons.
Et donc, on les surnomme les Flying Doctors, c'est ça, les bourdons ?
Ouais, c'est le nom commercial de la ruche en question. C'est assez bien vu, les Flying Doctors.
Ils ont la classe, ces bourdons. Merci beaucoup, Marie-Croix. Le bourdon, un pollinisateur hors pair, c'est le titre du dossier. De Ça m'intéresse à découvrir. Et c'est en partenariat avec RTL. À très bientôt.
Vous écoutez RTL.